Chapitre 23e. Départ, misère de la route, hospitalité, terreur, un homme singulier, effet d'un talisman, rencontre inopinée, récit de François et de Fignolet, espoir réalisé. Quoique la manière toute miraculeuse dont j'avais échappé au désastre de la Doris eût dû m'inspirer une confiance entière dans la Providence, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une vive inquiétude en songeant à la durée de ce voyage que nous entreprenions avec si peu de ressources, c'est-à-dire sans provisions et sans armes. Tant que nous cheminâmes sur la partie sablonneuse avoisinant le rivage, aucun obstacle ne s'opposa à notre marche, mais une fois que le sol, commençant à changer de nature, devint rocailleux, et que les hautes futaies remplacèrent les plantes molles et rares de la plage, nous nous trouvâmes en proie à un supplice auquel nous n'avions pas songé. Nos pieds nus, car nous avions perdu nos chaussures, peu habitués à fouler les ronces et les pierres, ne tardèrent pas, horriblement déchirés et sanglants, à nous occasionner de telles souffrances que nous dûmes nous arrêter. Quoique notre guide ne nous fît aucune observation, nous pûmes voir, à l'air surpris de son visage et au sourire de mépris qui passa sur ses lèvres, combien il s'étonnait que la peau des infidèles ne fût pas plus solide. Enfin, après nous avoir fait, tant bien que mal, des espèces de bottines avec des morceaux de nos pagnes, nous nous remîmes en route. Après une étape de 2 heures, nous atteignîmes une misérable petite bourgade située sur le bord opposé d'une rivière qui nous barra le passage. Notre guide nous dit de l'attendre, puis, se jetant à l'eau, il parvint en 3 ou 4 brasses sur la rive opposée. 5 minutes plus tard, il nous rejoignait en bateau. Les habitants de cette bourgade, tous pêcheurs, prévenus probablement par notre guide en barque, nous accueillirent avec une grande bienveillance et nous servirent, du moins quant à la quantité, ce qui était l'essentiel pour nous, un excellent repas. Les huttes, ou pour être plus exact, les antres souterrains qui servaient d'habitation à ces Arabes, présentaient l'aspect d'une profonde misère. Ces huttes étaient recouvertes par un toit en feuilles de palmier qui descendait jusqu'à terre et ne laissait pénétrer à l'intérieur qu'un mince filet de lumière. Quant à leur ameublement, quelques peaux, soit de tigre, soit de bœuf, mal tannées et jetées sur un sol inégal et crevassé, 3 pierres placées triangulairement dans un des angles et qui représentaient la cuisine, quelques pagnes usées et sales suspendues à des chevilles en bois, enfin 4 ou 5 panels en terre et un grand nombre de calebasses, et c'était tout. Après nous être bien restaurés, nous nous remîmes en route. Il pouvait être alors 6 heures. En sortant de ce village, nous entrâmes dans une prairie comme de ma vie je ne me souviens d'en avoir vu une pareille. C'était la réalisation en miniature du paradis terrestre. Des massifs de fleurs, qui toutes m'étaient inconnues et exhalaient un parfum enivrant, un gazon d'émeraude, des oiseaux fabuleux aux cris étranges, aux plumages bizarres et splendides, frappaient partout nos regards. À l'extrémité de cette prairie, l'on apercevait une forêt dont les ombres noires et épaisses obscurcissaient à une grande distance le tapis de verdure sur lequel elle se projetait. Je suis certain que cette forêt doit renfermer du gibier de toute espèce, dis-je à M. Liard. Combien je regrette que nous n'ayons pu sauver du naufrage de la Doris au moins un fusil. De quelle immense ressource cela nous serait en ce moment.
Pourvu toutefois que les tigres et les serpents ne composent pas à eux seuls tout ce gibier, me répondit le capitaine. Je ne sais comment cela se fait, mais la vue de cette masse sombre de verdure a quelque chose de mystérieux et d'imposant tout à la fois, qui, vous allez vous moquer de moi, m'inspire une crainte superstitieuse qu'il me serait impossible au reste, je l'avoue, de définir.
Parbleu, capitaine, vous m'y faites songer. Cette forêt ne serait-elle pas celle dont notre hôte Mokrani nous a parlé?
En nous avertissant qu'elle était peuplée de bêtes féroces?
Oui, ce doit être ça. Interrogez le guide, vous, Garneret, qui savez l'arabe. J'appelai aussitôt, pour me conformer au désir du capitaine, en Baruch qui marchait à quelques pas en avant de nous.
Mon ami, lui demandai-je, ne crains-tu rien? Qu'ai-je à craindre? Me répondit l'arabe.
Mais les tigres et les serpents qui se trouvent, à ce qu'il paraît, en grand nombre dans cette forêt?
Oui, c'est vrai, dit en Baruch. Cette forêt renferme dans son sein tout l'esprit du mal de l'île de Zanzibar. On y a vu des serpents d'une longueur extraordinaire.
Vraiment? Et de quelle longueur à peu près?
Arrêtez-vous un moment, me dit l'arabe, je vais vous en donner une idée.
Mbaruk, après avoir prononcé ces paroles, s'éloigna de moi à grands pas, puis, s'arrêtant bientôt et se retournant de mon côté,
Les serpents, parmi les gros, sont à peu près de cette dimension, me dit-il. Au diable ! M'écriai-je avec un effroi involontaire et que je ne pus maîtriser. Savez-vous bien, capitaine, que l'espace qui me sépare du guide et qui, d'après lui, représente la longueur des serpents, est bien de 40 pieds ? Les deux frères Fleury, Ducasse et M. Liard, ouvraient des yeux effarés, et absorbés par leurs pensées, qui devaient être les mêmes que celles qui m'occupaient, gardaient un éloquent silence. Enfin, que faire, mes amis ? Repris-je. « Puisque nous devons forcément traverser cette forêt, à quoi bon nous désoler d'avance ?»« Dame, lieutenant, me répondit Ducasse, c'est que ces serpents sont bien gros, et que nous sommes bien maigres. À nous cinq, nous représenterions à peine un repas confortable pour l'un d'eux. »« Bah, Ducasse, du courage. Après tout, vous savez que les Arabes sont portés à l'exagération. Peut-être bien notre guide a-t-il décuplé la grandeur de ces monstres. »« Oui, lieutenant, c'est encore possible, mais ça ne fait rien. » J'éprouve une crainte extraordinaire à entrer dans ce maudit bois. Enfin, comme vous le dites, qu'y faire ? Marchons donc, et marchons vite.
Lorsque, quelques minutes plus tard, nous atteignîmes la redoutable forêt, nous nous arrêtâmes tous les cinq par un mouvement irréfléchi et spontané. Notre guide nous invita.
« Eh bien, Mbaruk, lui dis-je, il paraît que tu n'es pas plus partisan que nous des serpents, car je te vois hésiter.
Ce ne sont pas les serpents que je redoute.
Ah ! Tu m'y fais penser. J'ai oublié en effet de t'interroger sur les tigres.
J'aime à croire qu'ils ne le cèdent en rien, en beauté et en dimension.
Ils sont nombreux, forts et très grands, dit le guide en m'interrompant. Mais comme ils ont du gibier à discrétion et qu'ils ne ressentent jamais les atteintes de la faim, il est rare qu'ils attaquent les hommes.
Alors, d'où peut venir ta pâleur et ton émotion ? Car tu es pâle et ému, Mbaruk.
Si tu ne crains pas les attaques des serpents et des tigres,
cette forêt renfermera-t-elle donc d'autres animaux plus dangereux et plus terribles encore que ceux-ci ?
Non, mais elle renferme Macao.
Qu'est-ce que cela que Macao ?
Le guide, plongé dans de profondes réflexions, soit qu'il n'eût pas entendu ma question, soit qu'il ne jugea pas à propos d'y répondre, garda le silence. Enfin, secouant bientôt sa tête comme pour chasser de devant ses yeux une image importune et effrayante, il sortit de dessous son pagne le talisman, c'est-à-dire le collier en corail que lui avait remis Mokrani en nous quittant et reprenant sa course.
« Dieu est grand et Mahomet est son prophète, » dit-il comme en se parlant à lui-même. « Et puis, à quoi bon fuir notre destinée ? Ne nous suit-elle pas partout ?»
Mbaruk, après avoir murmuré cette maxime essentiellement musulmane, entra résolument dans la forêt. Nous le suivions en nous rapprochant instinctivement les uns des autres. Pendant le premier mille que nous franchîmes, ému par le moindre frôlement de branches, par la chute d'une feuille, par le bruit de nos propres pas, nous gardâmes un profond silence. Quant à moi, je réfléchissais à l'effroi qu'avait montré notre guide en prononçant ce nom de Macao, et je me torturais en vain l'esprit pour deviner ce que ce nom pouvait signifier. Peu à peu, cependant, l'admirable et riant spectacle que nous présentait l'intérieur de la forêt, alors égayé par le chant des innombrables oiseaux qui perchaient sur les branches touffues de ces arbres gigantesques, la vue des plantes phénoménales, dont je n'avais jusqu'à ce jour pas même soupçonné l'existence, enfin, la tranquillité profonde qui régnait autour de nous, finirent par dissiper nos terreurs, et nous en fûmes bientôt à nous moquer de nos appréhensions et à les tourner en ridicule. Peu à peu aussi, notre petite troupe, d'abord serrée, se débanda, et nous reprîmes chacun l'allure qui nous convenait le mieux. Si ce n'eussent été nos traits amaigris par les privations que nous avions endurées, nos teints hâlés, nos barbes incultes et nos vêtements en lambeaux, nous eussions plutôt ressemblé à des écoliers en train de faire l'école buissonnière qu'à des matelots naufragés. En effet, attirés et distraits à chaque instant par la vue ou par l'apparition d'une plante merveilleuse ou d'un insecte inconnu, nous abandonnions à toute minute le sentier que nous suivions pour satisfaire notre curiosité. Nous avancions ainsi vagabondants et heureux, lorsqu'un bruit de branches froissées nous fit arrêter court. Avant que nous eussions eu le temps de nous rapprocher les uns des autres, un chevreuil suivi de son petit passa en gambadant tout à côté de nous.
« Ah ! Quel bon repas ! » s'écria Ducasse qui marchait en avant.
Le chevreuil, comme s'il eût compris cette exclamation si pleine de regrets, et nous prenant en pitié, eût voulu nous laisser réaliser notre souhait, s'arrêta à deux pas au plus du bordelais et se mit à le regarder d'un air curieux et effaré tout à la fois. L'occasion était trop belle pour que l'on pût y résister. Le matelot s'élança aussitôt sur l'animal, mais, hélas, avant qu'il pût l'atteindre, Celui-ci avait pris un élan subi et retomba en bondissant dans l'intérieur de la forêt.
« Égoïste !»
s'écria Ducasse, qui, furieux de manquer une pareille aubaine, lui lança de toute sa force un bâton qu'il tenait à la main. Le chevreuil évita sans peine le projectile et, se glissant dans les fourrés, il disparut. Toutefois, une espèce de cri plaintif s'était fait entendre.
« Hourra ! Victoire, les amis !» s'écria Ducasse. « J'ai blessé le petit. Dieu de Dieu, quel souper pour ce soir !»
En effet, le bâton du Bordelais avait atteint dans les jambes le petit du chevreuil, qui était tombé sur le cou et gisait au milieu d'une touffe épaisse de grosses plantes. En deux enjambées, Ducasse rejoignit le pauvre animal. Mais la vue d'un homme, cet être qu'il ne connaissait probablement pas encore et qu'il avait si maltraité, le petit chevreuil, effrayé, parvint à se relever et s'éloigna à moitié en se traînant, moitié en sautillant. Ducasse se mit à sa poursuite.
« Rappelez votre ami !» nous dit le guide M'Baruch, qui avait assisté sans mot dire à cette scène de chasse d'un nouveau genre. « Il pourrait se perdre dans la forêt. »
Nous nous empressâmes d'obéir à ce conseil.
« Attendez, il n'en peut plus.
Je le tiens !»
nous répondit Ducasse, que nous ne pouvions plus apercevoir, caché comme il l'était, par des broussailles et par des branches, mais dont la voix claire et distincte nous prouvait que 20 pas à peine nous séparaient de lui. Affriandés par la perspective de l'excellent souper que nous promettait la possession du jeune chevreuil, et rassurés par la faible distance qui se trouvait entre Ducasse et nous, nous suspendîmes nos cris pendant environ 1 minute.
« Mais rappelez donc votre ami, ou c'est un homme mort !»
nous dit M'Baruch avec énergie.
« Il va se perdre !»
L'arabe prononça ces paroles avec une telle conviction que nous nous hâtâmes de lui obéir. Nous nous mîmes de nouveau à appeler Ducasse. Quelques secondes s'écoulèrent sans nous apporter une réponse. Enfin, au moment où nous allions redoubler, la voix du matelot arriva jusqu'à nous, mais tellement affaiblie par la distance que nous ne pûmes distinguer ce qu'il nous disait. Notre guide leva alors les épaules d'un air de mauvaise humeur, puis se retournant vers nous.
« Vous autres infidèles, vous êtes des enfants. Vous n'avez pas voulu suivre mes conseils et écouter mon expérience. Vous ne reverrez plus cet homme. »
Ces paroles nous causèrent, on doit le concevoir, une émotion profonde.
« Quel danger court-il donc ? »
demandai-je à l'arabe. « Crains-tu qu'il ne devienne la proie de quelque tigre ou de quelque serpent ?»«
Oh, si ce n'était que cela, je ne le plaindrais pas. Le sort qui l'attend est bien autrement affreux. Un tigre, d'un coup de patte, vous écrase le crâne. Un serpent, avec un pli de ses anneaux, vous brise le corps et tout est fini. Tandis que la faim, lorsqu'elle s'attache à vous, ne vous fait pas grâce dans votre agonie d'une seule souffrance. Dans 6 ou 7 jours, votre ami sera mort de faim. » Mais rien que dans 6 ou 7 jours, je te le répète, juge, d'ici là, quel tourment il devra endurer.
« Ce que tu dis là est impossible !» m'écriai-je en sentant un frisson me passer le long du corps.
« Ducasse va revenir !»«
Non, il ne reviendra pas. Un homme perdu dans cette forêt que nul pied humain n'a osé fouler encore ne peut revenir. Toi, qui es un marin, crois-tu qu'un naufragé puisse, au milieu des mers, retrouver son chemin ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, pourquoi voudrais-tu donc qu'un homme dans une mer de verdure put accomplir ce qui est au-dessus des forces de celui-là. Tu ne reverras plus ton ami. Crois-moi, nous pouvons nous remettre en route. »
On conçoit que malgré cette sinistre assurance d'M'Baruch, nous ne voulûmes pas suivre son conseil.
Réunis tous les quatre à l'endroit même du sentier où Ducasse était entré dans la forêt, nous nous exténuâmes pendant plus de 2 heures à jeter aux échos nos cris prolongés et déchirants. Un silence de mort régnait autour de nous. Enfin, il nous fallut nous rendre à l'évidence. M'Baruch avait raison. Ce n'est pas toutefois sans une émotion profonde, après nous être bien convaincus de l'inutilité de nos efforts, que nous nous décidâmes à nous remettre en route. Nous étions tous émus jusqu'aux larmes. Pendant l'heure qui suivit cet affreux malheur, nous continuâmes de marcher en silence. Nos pensées étaient tellement tristes et désespérées que nous n'osions nous les communiquer. De temps en temps, nous nous arrêtions, malgré nous, pour essayer de fouiller d'un regard explorateur l'intérieur de la forêt, mais la masse sombre et serrée de feuillages qui s'élevaient de chaque côté du sentier, comme 2 murailles impénétrables, rendaient nos tentatives complètement vaines et inutiles. Le soleil, autant que nous pouvions en juger, en l'apercevant à la dérobée à travers quelques éclaircies produites par des arbres que la foudre avait dû renverser, était alors à plus de moitié de sa course. Il y avait plus de 4 heures que nous avions perdu l'infortuné Ducasse, lorsqu'un cri que je n'oublierai jamais retentit dans la forêt, à quelques pas du sentier que nous suivions. À ce cri, qui tenait à la fois de la bête féroce et de l'homme,
nous nous arrêtâmes, surpris et épouvantés. Notre guide M. Baruch, tremblant et les yeux hagards, semblait aux proies à une frayeur extrême. « Quel est ce cri ?» lui demandai-je avec émotion.
« C'est Macao, » me répondit-il.
« Que Dieu nous protège.
S'il n'allait plus reconnaître le talisman ?»
M. Baruch, en prononçant ces paroles, s'empressa de retirer de dessous son pagne le collier en corail que lui avait remis Mokrani en prenant congé de nous. Notre attente ne fut pas de longue durée. Bientôt une espèce de hurlement sauvage, suivi immédiatement d'un froissement de branches produit, on le devinait, par une course désordonnée, se fit entendre. Puis, presque au même instant, nous vîmes apparaître à une dizaine de pas en avant de nous, dans le sentier, un nègre presque nu, de proportions herculéennes et armé d'un bâton noueux. La chevelure énorme et hérissée de l'Africain, l'expression de férocité qui plissait en la relevant sa narine, ses yeux démesurément ouverts, sa grosse lèvre inférieure pendante qui laissait apercevoir une rangée de dents blanches et affilées comme celle d'un requin, faisait de cet homme ou de cette espèce de brute quelque chose de hideux et d'épouvantable. Je devinais, à l'incroyable légèreté avec laquelle il tournait sa massue, car son bâton pouvait bien passer pour une massue, qu'il prenait son élan pour la lancer sur nous et que cet exercice lui était familier. Cette apparition avait naturellement produit 10 fois moins de temps à se produire que je n'en mets à la raconter.
« Macao !»
s'écria notre guide M. Baruch en étendant vers le nègre le collier de corail qu'il tenait à la main.
« Mokrani m'a chargé de te dire qu'il pense toujours à toi et qu'il désire ton bonheur. »
La vue du collier de corail produisit un effet extraordinaire sur le sauvage. La fureur qui l'animait tomba comme par enchantement, ses traits se détendirent et reprirent leur expression habituelle.
Dis au bon Mokrani que je le remercie et que je pense souvent à lui, répondit-il en mauvais arabe après un moment de réflexion.
Le timbre de sa voix me fit mal. On devinait, en entendant parler cet homme, que depuis longtemps son gosier était déshabitué de donner passage à des sons humains. Macao, après avoir fait cette réponse, se disposait à rentrer dans la forêt, mais M. Baruch alors assuré le retint.
« Il y a un blanc, un ami de Mokrani, qui vient de se perdre, » lui dit-il.
« Si tu le rencontres et que tu le remets dans son chemin, cela fera plaisir à Mokrani. » Le nègre fit un signe de tête affirmatif, signifiant qu'il voulait bien accepter cette mission. Puis, nous regardant de nouveau avec de grands yeux brillants, il prit son élan et disparut bientôt dans la forêt. Cette scène s'était passée si rapidement et nous avait impressionnés si vivement que nous fûmes quelques instants, après que l'Africain eut disparu, sans prononcer une parole. Enfin, m'adressant à notre guide, « Quel est donc ce nègre, et que nous voulait-il » lui demandai-je.
« Ce nègre, c'est Macao. Ce qu'il voulait, c'était vous tuer. »
« Pourquoi cela? Que lui avions-nous donc fait ?»«
Rien, mais il déteste tous les hommes depuis son malheur. »«
Son malheur? Qu'entendez-vous par là ?»«
Oh, c'est toute une histoire. »
« Eh bien, racontez-nous-la en marchant. Elle nous aidera à supporter la fatigue du chemin. »«
Volontiers. Quelques mots me suffiront. »
Macao était libre et aimait une jeune fille lorsqu'à la suite d'un procès que lui suscita le gouverneur de Zanzibar, Yakout, il perdit injustement sa liberté. Macao se soumit sans se plaindre à sa nouvelle condition lorsqu'il y a de cela environ 1 an, Yakout vendit à un négrier la maîtresse du malheureux. « Je ne puis vous exprimer la douleur, le désespoir, la colère que Macao éprouva à cette nouvelle. Il fut se jeter aux pieds du gouverneur et lui demanda en pleurant de ne pas le séparer de celle qu'il aimait. Yakout, irrité par la vue de cette passion qui lui rappelait si vivement que lui ne pouvait plus aimer, non seulement resta sourd aux prières du misérable, mais il le fit même fouetter cruellement. Le lendemain de cette exécution, le négrier qui avait acheté la maîtresse de Macao mit à la voile, et ce dernier disparut sans que l'on pût se douter du refuge qu'il avait choisi, ni par conséquent le poursuivre. Ce fut à cette époque qu'un nègre, le corps horriblement déchiré par les morsures du fouet, vint demander l'hospitalité à Mokrani, qui l'accueillit sans lui faire de questions, et le traita comme s'il eût été son fils ou son frère. Quelques jours plus tard, des soldats de Yakout vinrent cerner l'habitation de Mokrani pour s'emparer de ce nègre, qui n'était autre, je n'ai pas besoin de vous le dire, que Macao. Mokrani, fidèle au devoir de l'hospitalité, refusa d'obéir à cet ordre, appela toute notre bourgade, dont il est le chef, à son secours et se disposa à repousser la force par la force.
« Frère,
lui dit le nègre. Je ne veux point que tu t'exposes pour moi. Laisse-moi faire. Je saurais bien me retirer à moi seul de cette mauvaise position. Seulement, n'oublie point une chose, c'est qu'à partir de ce moment, tous les hommes sont mes ennemis, tous, excepté toi, dont je n'oublierai jamais la généreuse hospitalité, et tes amis, que je respecterai en souvenir de ta bonté pour le malheureux Macao. Le soir même de ce jour, l'Africain armé d'un coutelas se jeta corps perdu sur les 5 ou 6 soldats envoyés par Yakout pour l'arrêter, en tua 2, mit les autres en fuite et disparut lui-même. Ce ne fut que 15 jours après que l'on en entendit parler. On sut que, réfugié dans cette forêt que nous traversons en ce moment, il attaquait et massacrait impitoyablement tous les voyageurs qu'il rencontrait. Toutefois, et malgré la terreur qu'il répandait, Mokrani, qui se connaît en homme, prétendait que Macao respecterait ceux qui invoqueraient auprès de lui son nom. Une fois, un arabe de notre bourgade, devant traverser la forêt, s'adressa à Mokrani et le pria de le protéger auprès de Macao. « Prends ce collier de corail, » lui dit Mokrani. « Il appartenait à la maîtresse de l'Africain, et celui-ci me l'a donné comme étant ce qu'il possédait de plus précieux sur la terre. S'il t'attaque, montre-le-lui, prononce mon nom et ne crains rien. Il ne te fera pas de mal. » L'arabe, confiant dans la parole de Mokrani, partit aussitôt. Ce que notre chef lui avait prédit se réalisa de point en point. Macao s'élança sur lui en brandissant sa massue, dont, soit dit en passant, il se sert avec une adresse et une vigueur extraordinaires. Mais à la vue du talisman et au nom de Mokrani, sa fureur tomba de suite. « Que Mokrani soit béni, » dit-il à l'arabe en rentrant dans la forêt. Depuis lors, chaque fois que l'un de nous doit parcourir le chemin que nous faisons en ce moment, il demande le collier de corail à Mokrani et part sans crainte. Tu as pu voir tout à l'heure par toi-même que nous avons raison de nous fier à la parole et à la reconnaissance de Macao. L'histoire racontée par notre guide nous avait vivement intéressés, mais la diversion qu'elle opéra dans notre esprit ne fut pas assez forte pour éloigner de notre pensée le souvenir de notre pauvre Ducasse. Poursuivi par cette triste idée, nous continuâmes le reste de la journée à garder le silence. Il pouvait être environ 7 heures du soir lorsque nous sortîmes de la forêt. Ce ne fut pas sans une vive satisfaction que nous laissâmes derrière nous cette sombre et mystérieuse masse de verdure qui servait de refuge à tant de tigres féroces, à tant de serpents monstrueux. Aujourd'hui, que les événements qui ont marqué cette lugubre époque de ma vie sont loin de moi, je voudrais bien avoir été attaqué par quelques gigantesques boas, afin de pouvoir apporter au lecteur ce combat étrange. Mais je l'ai déjà dit quelque part dans ses mémoires, et je le répète ici, sans crainte de m'attirer un démenti, je ne sais pas, ou pour être plus exact, je ne puis pas inventer le moindre fait. J'éprouve déjà bien assez de difficultés à raconter simplement ce que j'ai vu, sans vouloir compliquer la vérité par la fantaisie. Pour ne pas fatiguer le lecteur par le récit de notre voyage à travers l'île de Zanzibar, voyage qui n'aurait quelque charme que s'il était reproduit non par une plume même expérimentée, mais par un habile pinceau, je passerai sous silence les petits incidents assez insignifiants qui remplirent pour nous nos 2 dernières journées. Toutefois, je ne dois pas oublier de reconnaître que nous rencontrâmes partout la même générosité qui nous avait accueillis lors de notre naufrage. Enfin, le 3e jour, vers les 4 heures du soir, nous entendîmes un long murmure. C'était le bruit de la mer. Nous avions traversé l'île et ne nous trouvions guère éloignés que de 2 lieues au nord de la capitale de l'île ou de Zanzibar. Que l'on juge de notre émotion quand, après une nouvelle heure de marche, nous aperçûmes sous un hangar qui s'élevait, solitaire, sur la plage, à côté d'une espèce de cabane de pêcheurs, 2 matelots européens couchés sur le sable. Poussant un cri de joie, nous prîmes notre élan vers eux. « François Combalot, Fignolet !» Nous tombâmes dans les bras les uns des autres. Hélas, quel changement s'était opéré dans le pauvre François. D'une maigreur de squelette, les yeux animés d'un feu sombre, la jambe gauche enflée et enveloppée dans un morceau de toile, il ne ressemblait plus en rien au gai et vigoureux matelot dont la gaieté, le courage et l'énergie ne se démentaient jamais. Il avait vieilli en moins de 2 semaines de plus de 20 ans. Quant à Fignolet, c'était tout autre chose. Frais et vermeil comme s'il eût vécu de la façon la plus heureuse, la catastrophe qu'il venait de subir n'avait pas laissé une seule trace sur son visage. Après bien des paroles perdues, bien des questions interrompues et des réponses entrecoupées d'exclamations, nous finîmes enfin par nous entendre,
Comballo nous raconta la terrible histoire des hommes restés à bord de la Doris et dont lui et Fignolet étaient les seuls survivants. S'il me fallait rapporter ici cette narration, elle tiendrait au moins un volume. Je me contenterai donc de la résumer en très peu de lignes. « Les nègres, nous dit François, après votre départ dans le canot, tombèrent dans un profond abattement. Et au lieu de songer, comme cela m'avait d'abord paru être leur intention, à s'en prendre à nous de leur malheur, ils vinrent nous demander, avec des larmes et des cris, de les sauver. « Aidez-nous, et je réponds de vous tous, leur dis-je. » Nous nous mîmes aussitôt à la besogne. Sous la direction du maître charpentier, Martin, nous amarrâmes ensemble toutes les mâtures de rechange qui composaient la drôme, le gui, la corne, les deux basses-vergues et la civadière. Cela nous faisait 11 pièces de résistance. Une fois ce premier plancher construit, et il le fut avant la fin du jour de notre départ, nous étions assurés d'avoir construit un bon radeau. Nous dormîmes donc plus tranquilles. En effet, le lendemain au soir, notre travail était tout à fait achevé. Voilà où commencent nos malheurs. Pendant 4 jours entiers réfugiés sur ce radeau, nous restâmes à attendre qu'un souffle de brise nous permît de nous éloigner de la Doris, mais le calme le plus plat que j'ai jamais vu ne cessa de régner. Par bonheur, les nègres avaient tapé au passage quelques sacs de biscuits que la mer entraînait et qui nous permirent de ne pas mourir de faim. Seulement, les nègres, affamés et impatients, pendant que nous faisions nous autres sécher notre biscuit, avalaient le leur. Et Dieu sait en quelle quantité, tout imprégné d'eau de mer. Il arriva alors ce qui devait arriver. C'est-à-dire que les Africains, pris bientôt de vomissements atroces et d'une dysenterie épouvantable, commencèrent à mourir comme des mouches. Le malheur voulut alors qu'un tonneau d'eau-de-vie leur tomba entre les mains. Inutile d'ajouter quel emploi ils en firent, qu'il vous suffise de savoir que 4 jours plus tard, de 32 nègres qui se trouvaient sous notre radeau, 10 seulement n'étaient pas encore morts. Ceux-là succombèrent le lendemain, et ayant jeté leur corps à l'eau, nous nous retrouvâmes entre amis. « Et Perrin, et Martin, et Boubert ? » m'écriai-je. « La suite de mon récit vous apprendra quel fut leur sort, » me répondit François. « Mais au fait, » continua-t-il, « à quoi bon vous raconter toutes ces choses ? Elles m'attristent, me donnent la fièvre, et ne peuvent rien changer aux événements passés. J'aime mieux en finir en quelques mots. Eh bien, après avoir passé 8 jours sur le radeau, nous aperçûmes, Fignolet et moi, car ce fut le premier jour qu'on mourut Martin, le dernier survivant de nos camarades, nous aperçûmes, dis-je, une barque de pêcheurs que nous hélâmes, qui vint à notre secours et nous mit à terre, et voilà. En remarquant l'air de profonde tristesse et de souffrance que ces cruels souvenirs avaient amené sur le visage de François, nous n'insistâmes pas pour obtenir de lui de plus amples renseignements. Nos compagnons étaient, hélas, morts de fatigue et de faim. Cela ne suffisait que trop à notre curiosité. À quoi bon nous eût servi la peinture de leur cruelle souffrance. « Et toi, Fignolet, » dit Genovis, « comment se fait-il que tu aies pu résister ?»« Moi, lieutenant, » me répondit-il en rougissant, « cela se conçoit sans peine. Habitué par les gens de l'équipage, qui me flibustaient les 3/4 de temps mes rations, à jeûner presque toujours, je ne me suis presque pas aperçu que je mourrais de faim. Et cela ne m'a pas maigri, comme vous le voyez. « Je crois bien, » s'écria François. Ce sage de Fignolet avait mis en réserve, au moins je l'en ai toujours soupçonné, un morceau de lard et du biscuit, et la nuit, pendant que nous tirions la langue, il grignotait tout à son aise ses petites provisions. « Moi ?» s'écria Fignolet. « Ah, François, c'est bien mal ce que vous dites là. Je n'avais pas de lard. C'était un jambon. » Comme nous étions harassés de fatigue, nous souhaitâmes le bonsoir à François, et nous étendons à ses côtés, sous le hangar qu'un pêcheur arabe lui avait prêté et où il demeurait, si on peut appeler cela à demeurer. Depuis 2 jours, nous ne tardâmes pas à nous endormir d'un profond sommeil. Je fus le lendemain matin le premier debout. Ne voulant pas réveiller mes compagnons, je me levai sans bruit et m'en fus faire un tour sur la plage. « Lieutenant, me dit Fignolet en courant après moi, voulez-vous venir m'aider dans ma chasse ? Quelle chasse, illustre Fignolet ? Celle que je fais depuis 2 jours aux œufs de tortue. J'en déniche au moins 20 tous les matins. C'est joliment bon l'œuf de tortue. « Surtout quand la tortue commence à se former, vous verrez. »« Volontiers, Fignolet, » m'écriai-je, ravi de cette ressource sur laquelle je ne comptais pas. « Reçois tous mes compliments pour ton intelligence. Je ne t'aurais jamais soupçonné de tant d'esprit. »« Oh, lieutenant, vous êtes bien bon. Je sais bien que je suis une fichue bête. Seulement, comme j'ai toujours faim, ça me donne des idées, et je finis souvent par trouver quelque chose. » En effet, Fignolet ne m'avait pas trompé. Après un quart d'heure de marche tout au plus, je le vis, avec la certitude du flair d'un vrai chien de chasse, se jeter par terre à plat ventre, remuer un peu le sable et me montrer d'un air triomphant un hideux. J'allais lui adresser mes félicitations quand mon regard, en parcourant instinctivement l'immensité de l'océan, aperçut au loin, presque aux dernières limites de l'horizon, comme un petit nuage blanc presque imperceptible, qui attira bientôt toute mon attention et me fit oublier tout à fait l'affamé novice. Bientôt mes doutes cessèrent et une joie immense me monta au cœur. Ce petit nuage blanc était un navire sous toute voile et qui plus est, du moins il me parut tel, un navire européen.
« Fignolet ! Fignolet ! »
m'écriai-je, car le novice était la seule personne à qui je puisse faire part de mon espoir et de mon bonheur.
« Voici un navire en vue, viens vite ! Cours-moi avertir nos compagnons de cette bonne nouvelle !»«
Lieutenant, j'en tiens encore un autre !»
me répondit Fignolet, en se jetant de nouveau avec avidité sur le sable.
« Oh, ceux-là sont très frais, il y en a 12 !»«
Il s'agit bien d'œufs de tortue, ne m'as-tu pas entendu ?»«
Oui, lieutenant, un navire, je sais. Qu'est-ce que ça me fait à moi, jour de Dieu ? Lieutenant, je n'ai jamais rien avalé qui soit agréable et velouté comme ça. Voulez-vous en goûter un ?»
Voyant qu'il n'y avait rien à tirer de Fignolet, absorbé par sa chasse, je le laissai là, puis, prenant mon élan, je me mis à courir de toutes mes forces vers le hangar sous lequel mes amis dormaient toujours.
« Oh là, debout ! » m'écriai-je. « Navire européen en vue !»
Le capitaine Liard, les deux Fleury et Combalot furent loin de montrer le stoïcisme déployé par Fignolet. Ils se levèrent en toute hâte et se précipitèrent, excepté François, qui s'y traîna, vers la plage. Après un examen de quelques secondes, ils convinrent tous que je ne m'étais pas trompé, ou que, du moins, toutes les probabilités et toutes les apparences étaient pour l'opinion que je venais d'émettre. Pendant une heure, nous restâmes ainsi, les yeux fixés sur la voile inconnue. Enfin, ce temps passé, le doute ne nous fut plus possible. C'était bien un navire européen que nous apercevions ainsi voguer rapidement vers la terre. Quelle joie ! Nous allions donc trouver des secours, pouvoir quitter Zanzibar et retourner dans quelques colonies, peut-être à l'île de France. Notre bonheur nous étouffait. Ce fut François qui, le premier, rappelé par les exigences de la fin à la vie réelle, sortit de cette extase. « Mes amis, nous dit-il, voilà l'heure à laquelle les Arabes m'apportent ma nourriture de la journée. Retournons au hangar. »